7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Charles Bonner pour le journal à 7h30.
Avec à la une ce matin, l'extension du port de Dunkerque met en colère les agriculteurs. Le gouvernement menace les industriels de réquisition pour accélérer la production de matériel d'armement. Et puis le changement climatique va modifier la géographie du vin. La France n'est pas la plus concernée.
Et puis après le journal L'Écho du Monde, le Conseil de sécurité de l'ONU exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'analyse de Christian Macarian. Pas de vague sort au cinéma, l'histoire d'un prof accusé de harcèlement, les profs sur le grand écran, dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Et puis David Barou nous explique pourquoi Michel-Édouard Leclerc est très content. Les agriculteurs s'opposent à l'agrandissement du port de Dunkerque.
C'est l'un des sujets abordés au congrès de la FNSEA qui s'est ouvert hier dans la même ville. Avec la loi zéro artificialisation des sols, il faut compenser les extensions par des terres à proximité et en faire des espaces naturels. Mais à Dunkerque, ces terres sont agricoles, Julie Droit.
Avec l'agrandissement du grand port maritime, 1500 hectares de terres agricoles pourraient disparaître au profit de prairies, de forêts et de zones humides. Un geste en faveur de la biodiversité au détriment des cultures. Dénonce Laurent Declerc, représentant de la FNSEA locale.
Si on enlève aujourd'hui 1500 hectares qui servent à produire de la pomme de terre, savoir que c'est des terres très fertiles sur la Flandre maritime, on va prendre les meilleures terres pour en faire des compensations. On nous dit, on va vous donner de l'argent. Mais non, nous, notre outil de travail, c'est bien la terre. Nous, on ne peut pas se retourner comme ça. Moi, j'ai investi. Moi, j'ai installé un jeune. Comment on va faire si on lui enlève 20% de sa surface?
Alors, comment allier la réindustrialisation de la France, la protection de la biodiversité et celle de l'agriculture? Le député Les Verts, Charles Fournier, plaide pour un meilleur encadrement.
Il faut d'abord utiliser les zones artificialisées, avoir une vision de la réindustrialisation qui soit compatible avec la situation dans laquelle nous nous sommes mis. Parce qu'aujourd'hui, chaque parcelle de terre agricole qui disparaît, chaque biodiversité qui disparaît, c'est notre alimentation qui est en jeu, c'est notre vie qui est en jeu finalement.
L'autorité environnementale a de son côté déjà rendu plusieurs avis défavorables pour l'extension du grand port dunkerquois.
Après la colère des agriculteurs, les 27 États membres de l'Union européenne ont adopté la révision de la PAC hier avec l'abandon des jachères obligatoires, l'absence de contrôle pour les exploitations de moins de 10 hectares. Aujourd'hui, autre dossier agricole, la limitation des exportations ukrainiennes. La France veut notamment les élargir au blé. À la recherche d'économies, le gouvernement est réuni en séminaire aujourd'hui, au lendemain de la publication du déficit public, bien au-dessus des prévisions. Ce soir, aux 20h de TF1, Gabriel Attal doit détailler les pistes retenues comme une nouvelle réforme de l'assurance chômage ou encore une mise à contribution des collectivités territoriales.
Le ministère de la Défense presse les industriels de passer à la vitesse supérieure.
C'est une demande régulière depuis le début de la guerre en Ukraine. Le passage à une économie de guerre. L'État, qui a passé 20 milliards d'euros de commandes, estime avoir joué le jeu. Il attend désormais des industriels qui accélèrent, quitte à brandir la menace de réquisition. Sébastien Lecornu est le ministre des Armées.
Vous avez des entreprises qui sont duales, avoir une commande civile, une commande militaire. Comment on dit à l'industriel, vous n'avez pas le choix. La commande militaire passe en priorité sur la commande civile. C'est vrai pour l'industriel, c'est vrai surtout pour ses sous-traitants. Vous avez beaucoup d'industries de défense aujourd'hui qui nous disent, mais au fond, je prends du retard parce que j'ai des sous-traitants qui préfèrent vendre à du civil qu'à du militaire. Puis après, vous avez le dernier recours qui est la réquisition. J'ai dit que je ne l'excluais pas, mais ce n'est pas sur la table au moment où je vous parle, je le redis très clairement. C'est tout simplement que le ministère se substitue et donc réquisitionne soit des encadrements, du personnel, des stocks, des machines pour veiller à la production.
Sébastien Lecornu au micro de Céline Cajolis. Après l'environnement, la défense en visite au Brésil. Emmanuel Macron annonçait hier un programme commun d'investissement d'1 milliard d'euros pour l'Amazonie. Aujourd'hui, il retrouve son homologue Lula pour la mise à l'eau d'une troisième série de 4 sous-marins de conception française.
Il est 7h34 sur Radio Classique. Plusieurs mairies dénoncent l'arrivée de migrants dans leur ville.
C'est le maire d'Orléans qui a lancé la fronde. Le LR, Serge Gouard, dénonce des arrivées depuis Paris de sans domicile fixe, souvent des migrants. Le tout sans préparation. C'est aussi ce que constate également Sandrine Runel. Elle est adjointe PS à la mairie de Lyon.
Les premiers arrivants sont arrivés le 20 août et c'était des Parisiens et c'était dans le cadre du desserrement de Paris pour la préparation des JO. Le sous-préfet l'a dit très clairement, pour nous accueillir des Parisiens, c'était de la folie. On est déjà à Lyon submergé, on a très peu d'informations, la préfecture communique très peu sur les arrivées. Au jour le jour, le lundi c'est un bus pour Brest, le mardi c'est pour Orléans, le mercredi c'est pour Lyon, enfin voilà, c'est très très opaque.
Le ministère du Logement dément pourtant la raison des Jeux Olympiques, il s'agit simplement d'un mécanisme de solidarité selon Didier Lesqui, c'est le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
C'est un argument absurde. Depuis 2017, Nous avons un débat public de faire diminuer les campements de rue. Est-ce que l'enjeu, c'est de garder les gens en Île-de-France, alors que c'est déjà très embolisé? Soit il y a une politique républicaine de solidarité nationale, soit on ne l'est pas. Et je constate que des villes aussi différentes sur le plan politique que Strasbourg, Orléans ou Dijon ont du mal à comprendre ce que peut être une politique républicaine d'accueil des personnes dans la difficulté.
Dossier préparé par Lauriane Toulmont. 6,5 milliards d'euros, c'est le coût des catastrophes climatiques aux assureurs en 2023. C'est la troisième année la plus grave en termes de sinistres après 1999 et 2002 selon la Fédération des assureurs.
Le climat va modifier la géographie du vin.
Ouais, c'est forcément une étude que l'on scrute avec attention dans un pays mondialement connu pour ses vins. Une étude publiée dans la revue Nature sur les conséquences du changement climatique sur la production de vin. Chloé Sénard, certaines régions vont devoir tout simplement abandonner la viticulture.
Et si le réchauffement climatique ne dépasse pas les 2 degrés au niveau mondial, la plupart des régions viticoles d'Europe pourront encore produire de manière rentable. En revanche, si les températures explosent, beaucoup de régions méditerranéennes ne seront plus adaptées. 90% des vignobles des zones côtières et des plaines en Espagne, en Italie, en Grèce ou encore en Californie du Sud. La France semble plutôt protégée. Les viticulteurs devront quand même faire quelques ajustements. Par exemple, changer les cépages pour basculer vers des plus résistants aux températures et à la sécheresse. Parmi ceux cités, le Carignan, le Grenache ou encore le Chenin. Cette étude pointe également la modification de la géographie des vignobles. 11 à 25% des régions où la vigne est déjà implantée pourraient voir leur production s'améliorer. De nouvelles régions pourraient donc émerger. Dans plusieurs décennies, vous amènerez peut-être à vous dîner du vin issu du sud de la Grande-Bretagne.
Ouais, bon, ça on verra. Merci Chloé Sénard.
Richard Serra est mort.
Oui, sculpteur connu pour ses œuvres monumentales en acier rouillé. Richard Serra est mort hier à 85 ans. Ses grandes plaques avaient envahi le Grand Palais en 2008. Et en 2012, il répondait à une question essentielle. Pourquoi faire de l'art? Écoutez sa réponse.
J'ai toujours voulu une existence différente, quelque chose qui me permettrait d'étudier mes sentiments et mes expériences. Depuis l'enfance, je réfléchis aux problématiques qui me semblent intéressantes. Si le résultat de cette introspection est suffisamment clair, il est possible qu'il le soit pour quelqu'un d'autre. Et il est important que cela donne quelque chose que personne n'a fait auparavant.
Richard Serra, dont une autre œuvre est installée à La Défense, 5 plaques d'acier installées en bord de route. Et puis un mot de football pour terminer cette belle histoire pour l'Ukraine qui s'est qualifiée hier pour l'Euro qui se tiendra en Allemagne en juin-juillet. L'Ukraine qui joue tous ses matchs à domicile en Pologne. C'était encore le cas hier pour cette victoire contre l'Islande.
Charles, merci. Rendez-vous à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre l'écho du monde, le Conseil de sécurité somme Israël de cesser le feu, ce qui n'a pas l'air d'impressionner Netanyahou. On attend Christian Macaria en studio, 7h30.